Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la politique étrangère de la France. À l'approche des élections présidentielles qui marqueront obligatoirement un changement de personne, François Hollande n'étant pas candidat à un deuxième mandat, les ouvrages foisonnent en France autour de la question des enjeux de politique étrangère et des défis du prochain occupant de l'Élysée. Perspective en même temps que bilan avec tout un questionnement sur ce qui guide encore notre politique étrangère, sur l'identité française, la place de la France dans le monde et les relations complexes que les Français entretiennent avec la mondialisation. Regard avec nos deux invités, Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, enseignant à l'Institut d'Études Européennes de l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Je t'aimais bien, tu sais, le monde et la France, le désamour », point d'interrogation, paru aux éditions Max Milo. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Gomard, historien des relations internationales, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, co-directeur avec Thierry de Montbrial de « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France » chez Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Jamais campagne présidentielle n'aura été aussi marquée par la question des liens entretenus par certains leaders avec des puissances étrangères, pêle-mêle, je cite, la Russie, l'Arabie saoudite, le Qatar. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ces influences sont-elles un signe de faiblesse ou tout au moins de vulnérabilité?
Je ne suis pas sûr que les différents leaders soient autant que cela influencés par les puissances étrangères. On peut bien sûr parler des liens de Marine Le Pen avec la Russie du fait de ce prêt bancaire que le Front National a obtenu. Mais sinon, les autres candidats s'expriment en fonction de convictions stratégiques, idéologiques, que l'on peut contester ou que l'on peut, sur lesquelles on peut débattre. Mais je ne pense pas qu'il faille voir plus qu'auparavant une influence de puissances étrangères sur la politique française. La France a des relations avec de nombreux pays dont beaucoup ne partagent pas son système démocratique. C'est le propre finalement d'un pays qui doit être actif sur la scène internationale, mais ça date de De Gaulle. Les Américains pouvaient dire que De Gaulle était influencé par l'Union soviétique puisqu'il était rapproché de Moscou à une époque de pleine guerre froide, ou même de la Chine puisqu'il avait reconnu la Chine en 64 à la grande colère des Américains de l'époque. Était-il inféodé à Pékin, à Moscou? Non. Donc je pense que effectivement, il y a peut-être des relations très complexes de la France avec différents États, dont une fois encore, tous ne partagent pas son système politique, mais c'est le propre d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité et qui va avoir une politique globale et qui ne peut pas s'enfermer dans un dialogue unique avec les membres de l'Union européenne ou même simplement les puissances occidentales.
Thomas Gomard.
Le parti de l'étranger, historiquement, est quelque chose qui apparaît régulièrement. Pascal Boniface a mentionné la période gaulliste. On peut remonter plus loin dans le temps. Je pense que ce qui est quand même en train de changer, c'est l'influence étrangère par les moyens numériques. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où un certain nombre de questions en termes d'organisation et de structuration du débat, les faits sont posés de telle manière après une action tout à fait construite de la part de certains États. Alors c'est pas nouveau, le fait que la France subisse des influences étrangères, l'Arabie Saoudite, Israël, le Qatar, le Maroc, la Russie, les États-Unis, etc. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens. Et je crois que dans le cas présent, il y a quelque chose d'effectivement d'assez spécifique avec la Russie, dans la mesure où la Russie a lancé de manière ouverte des opérations d'influence de grande ampleur, qui passent par le cyber, mais pas seulement, et qui vise au fond à contester le principe de l'élection démocratique, ou plutôt qui vise à produire un discours consistant à dire « il y a un moment autoritaire qui va advenir, il y a un multiculturalisme qui est un échec, et au fond, les démocraties qui nous ont fait beaucoup la leçon après la chute de l'URSS sont désormais face à elles-mêmes ».
Alors vous parlez de la Russie, Thomas Gomard, ce qu'on peut constater c'est qu'effectivement les États-Unis se sont aussi engagés via la NSA dans un système d'espionnage assez peu respectueux de leurs alliés. Donc la question des moyens numériques est tout de même presque un acteur nouveau.
Oui, comme l'a dit Thomas Gomard, ce sont des moyens nouveaux sur des méthodes anciennes ou des méthodes d'influence anciennes et des stratégies d'influence que les différents pays essayent d'avoir auprès à la fois des responsables mais aussi des leaders d'opinion, des opinions publiques. C'est quelque chose d'assez ancien. Et la France, d'ailleurs, s'y met elle-même. Finalement, si on a créé des moyens audiovisuels extérieurs, c'est aussi pour peser sur l'étranger. Si le Quai d'Orsay a lancé un programme d'invitation de personnalités d'avenir, c'est aussi pour donner une image positive de la France, c'est nos différents instituts culturels, centres français, dont malheureusement d'ailleurs les moyens sont réduits, sont aussi une façon de présenter un visage positif de la France. Donc c'est tout à fait normal que chacun le fait. Enfin, en tous les cas, ça fait partie de la vie internationale. Alors effectivement, Thomas Gomard a parlé d'une stratégie d'influence de la Russie qui est très spécifique, qui vise un peu à rattraper son retard finalement par rapport aux États-Unis, dont les moyens par les différents think tanks, les différents médias, les revues de qualité, l'attraction intellectuelle qu'ils peuvent exercer, et maintenant contrebalancée, mais sur un pied quand même qui reste très faible, par Sputnik ou Russia Today, qui essayent effectivement de peser. Mais quand on regarde le rapport de force, ça reste quand même très minoritaire. Disons que ça surprend, parce que c'est relativement nouveau pendant très longtemps, et que les Russes passent par d'autres moyens. Ce ne sont plus les vieilles amitiés franco-soviétiques ou qui passaient par le canal principalement d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais quand on regarde vraiment les quelques intellectuels qui relaient les thèses de Moscou, il n'y en a pas tant que ça, et on ne peut pas dire qu'ils exercent une influence démesurée sur le débat stratégique en France. Et ils sont relativement bien répertoriés.
Thomas Gomard.
Oui et non. Oui, dans le sens où effectivement c'est pas quelque chose de nouveau et qu'il faut mettre ça effectivement en proportion avec d'autres influences. Non, dans la mesure où je note quand même que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de hauts fonctionnaires en charge des questions de sécurité se sont exprimés ouvertement pour la première fois sur les risques d'ingérence dans la campagne actuelle. Ce qui, à mon avis, dénote quand même, je dirais, une situation inhabituelle. Donc je nuancerai peut-être l'appréciation. En revanche, je pense que le vrai sujet, il est, et vous le mentionnez dans votre question sur l'attitude d'organes comme la NSA, que maintenant l'opinion a appris à connaître, c'est fondamentalement le contrôle de l'Internet. C'est-à-dire que l'Internet est devenu le système nerveux du système monde. Et nous sommes dans une guerre tout à fait ouverte désormais entre Américains et Chinois pour le contrôle global de l'Internet, alors avec des modalités très complexes que je n'ai pas le temps de décrire. Et dans ce jeu-là, il y a une position spécifique de la Russie et une certaine position de retard de puissances européennes comme la France, la Grande-Bretagne ou de pays comme Israël. Mais cette dimension-là est tout à fait constitutive maintenant du jeu international, c'est-à-dire que la maîtrise numérique, la maîtrise des données, la maîtrise des flux devient un élément non seulement d'influence classique, mais aussi un élément qui permet d'avoir pris sur ce qu'on appelle le récit, le narratif. Et c'est peut-être ça qui est en train de changer effectivement, c'est-à-dire que le narratif dans lequel nous avons baigné pendant plusieurs années, en particulier cette vision d'une globalisation conduite ou orientée depuis Washington, est en train effectivement de changer. Donc j'apporterai en fait cette précision à votre question.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors, la place de la France dans le monde. On a le troisième réseau diplomatique mondial après les États-Unis et la Chine, mais devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. De nombreuses institutions internationales qui ont leur siège à Paris, comme l'UNESCO notamment, ou des réunions d'une importance stratégique globale comme la COP21, la Conférence pour la paix au Proche-Orient. La France n'a pas forcément un poids déterminant dans les affaires du monde, mais les gouvernements successifs s'emploient avec détermination à garder ce rôle unique de facilitateur international. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la France est une proie de choix pour les pays qui cherchent une plus grande influence dans le monde, Pascal Boniface?
C'est un pays qui est actif, même si effectivement on pourrait souhaiter que les moyens attribués au Quai d'Orsay montent également. Il y a un objectif d'arriver à 2% du PIB pour la défense, alors que les moyens du Quai d'Orsay sont réduits de plus en plus. Et c'est quand même dommage, parce que le Quai d'Orsay, dans ses différentes dimensions, participe au rayonnement de la France, et depuis très longtemps, ces moyens sont renier chaque année. Ce n'est pas une priorité. C'est vrai qu'il n'y aura pas de manifestation pour demander plus de moyens au Quai d'Orsay.
1% du budget, le Quai d'Orsay.
Oui, hein, voilà. C'est donc, et qui, une fois encore, est en constante diminution, y compris dans l'optique soft power. Donc, tous les moyens d'influence culturelle sont régulièrement réduits, alors que dans tous les autres pays, ils sont en augmentation. Donc là, je veux dire, les ministres successifs célèbrent les stratégies d'influence, mais les moyens manquent, et donc cela reste déclaratoire. Ce qui est quand même très regrettable par rapport à notre rôle et nos ambitions. Mais effectivement, la France, je dirais pas que c'est une proie, mais c'est un pays qui compte, c'est un pays qui ne fait pas la politique, mais qui contribue. C'est quand même toujours une puissance globale. D'ailleurs, aucun pays ne peut aujourd'hui, pas plus les États-Unis que la Chine, imposer ses volontés au reste du monde. Mais la France, disons, participe au processus de décision internationale plus que d'autres pays. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, avoir une stratégie d'influence sur nos leaders fait partie du jeu normal de tous les autres dirigeants, qu'ils soient américains, israéliens, qataris ou chinois. Chacun essaye d'avoir l'oreille des dirigeants français parce qu'ils comptent un peu plus encore que d'autres pays européens.
Thomas Gomard.
Oui, alors moi je pense que l'influence qu'on exerce c'est proportionnelle à celle qu'on subit. C'est-à-dire que plus on subit de l'influence, d'une certaine manière, plus on a de l'importance. Pour les raisons que Pascal Boniface a indiquées, il faut rappeler que la France est membre permanent du Conseil de sécurité et que c'est désormais le seul pays, enfin pas encore en droit, mais ça va être le seul pays membre de l'UE à être membre de ce Conseil de sécurité, avec ensuite des engagements et des accords de coopération militaire très poussés avec un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique ou dans le Golfe. Et ça donne donc une position singulière à Paris qui explique que la France soit courtisée. À cela s'ajoutent aussi des outils d'influence globaux, les ventes d'armes, la présence des grandes entreprises françaises. Tout ça fait que, oui, c'est un acteur de taille moyenne à l'échelle globale, mais à prétention globale. Un dernier point peut-être sur l'articulation, effectivement, tout le monde déplore le manque de moyens du Quai d'Orsay, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des moyens de rayonnement qui vont diminuant. Je crois que c'est toujours important de comprendre qu'il n'y a pas de soft power sans hard power et réciproquement. C'est-à-dire qu'il faut penser ça, à mon avis, dans le rapport aussi à l'outil militaire, sur lequel on va peut-être revenir, qui a peut-être été utilisé de manière très très systématique ou trop systématique au cours des dernières années. Mais je pense que quand à partir du moment où on a une ambition globale comme c'est la France, à moins de se résigner et au fond de dire que la France n'aurait plus vocation à avoir cette dimension globale, je ne pense pas qu'il y ait un leader politique qui soit prêt à tenir un tel discours aujourd'hui, mais à partir du moment où il y a une ambition globale, elle repose à mes yeux sur une articulation très fine entre ce qui relève du hard power, c'est-à-dire de la puissance militaire, de la puissance classique, et du soft power, tous les moyens de rayonnement que nous évoquions.
Alors, vous évoquiez le fait que la France deviendra bientôt le seul pays de l'Union européenne à être membre permanent du Conseil de sécurité. Ça, c'est une conséquence du Brexit avec la sortie donc du Royaume-Uni. On y reviendra. On abordera aussi la question de l'outil militaire qui est, ou en tout cas, on posera la question de savoir s'il est ou non trop systématiquement utilisé. Je voudrais revenir sur les moyens pour parler de ce que vous faites au quotidien, finalement, l'un et l'autre, Pascal Boniface, Thomas Gobard, c'est-à-dire vous faites partie de think tank. On voit les think tanks français être plus faibles que leurs homologues, notamment européens, mais pas seulement. Il en résulte évidemment un déficit de rayonnement plutôt regrettable. C'est en tout cas le diagnostic qui figure dans un rapport rédigé par le diplomate Yves Saint-Jour, ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay. Lequel rapport dit que c'est à Londres et à Berlin qu'en Europe se font aujourd'hui les débats les plus importants de politique étrangère. Paris, dit encore le rapport, s'est provincialisé.
Je pense qu'on va faire un constat commun avec Thomas Gomard, qui peut paraître peut-être à certains de vos éditeurs un petit peu corporatiste, mais qui pose un vrai problème. Pendant très longtemps, les think tanks en France étaient réduits à la portion congrue parce que l'État régalien s'en méfiait et pensait que c'était une source éventuelle de critiques tout à fait malvenue. Pour vivre heureux, vivons cachés, s'il n'y a pas de débat, chacun accepterait finalement la politique française. Sauf que à l'étranger, il y a ce type de think tank et pendant très longtemps, les Américains ont eu une sorte de monopole, les anglo-saxons en tous les cas, de monopole dessus et donc il y a vraiment une influence qui est forte. Aujourd'hui, par ailleurs, nous vivons dans une ère de globalisation, donc l'influence est globale, multilatérale et non seulement les États-Unis gardent effectivement une avance considérable, mais les autres pays européens, l'Allemagne et le Royaume-Uni aussi. Et ce que l'on constate, c'est que dans les pays émergents, là aussi, les think tanks se développent et qu'on avait déjà un retard par rapport à nos voisins et cousins occidentaux, que désormais ce retard existe aussi avec les grands émergents, qu'il s'agisse des pays d'Asie centrale, du Golfe, d'Amérique latine, du Brésil, etc. Pour ne pas parler de la Chine, où on est passé d'un stade où les diplomates chinois venaient lire mot après mot un texte qui leur était fourni par le comité central à un système où les Chinois sont plus mobiles et participent à cela. Et donc en France, on est très minoritaire et il faut bien voir qu'il y a une bataille d'idées qui se joue au niveau international et que si on y est absent, elle se déroule sans nous et qu'on la perd. Et donc la présence présence des think tanks français, des intellectuels français dans ces débats internationaux est extrêmement importante pour faire entendre une voix qui n'est pas la voix officielle de la France, mais qui est une voix française. Et donc, bien sûr, nous ne sommes pas les relais de la diplomatie française. Nous avons aussi bien à l'IFRI qu'à l'IRIS des moments où nous sommes critiques et de moments où nous approuvons, selon d'ailleurs non pas l'institution, mais les chercheurs, parce que chaque chercheur est libre dans nos deux instituts, il faut s'en féliciter. Mais néanmoins, il est bon quand même qu'il y ait une voix française qui puisse s'exprimer, elle est trop souvent absente.
Alors Thomas Gomard, sur la place des think tanks français dans le monde.
Je partage évidemment ce que vient d'exprimer Pascal Boniface. J'ajouterai trois choses rapidement. La première, c'est qu'il y a une question de taille critique. Quand vous additionnez les budgets de l'IFRI, de l'IRIS et de la FRS, vous avez à peu près le budget de Chatham House au Royaume-Uni.
FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Pour donner un ordre de grandeur. Donc le rapport Saint-Jour, et c'est le deuxième point, pointe la provincialisation peut-être du débat français, mais moi je serais tenté de dire, avec les moyens dont nous disposons, nous tenons pas si mal que ça notre rôle collectivement, à la fois sur la place de Paris et sur notre capacité de rayonnement. En revanche, ce qui me semble tout à fait décisif, c'est qu'il y a une prise de conscience peut-être qui est louable, mais peut-être un peu tardive de la part de nos autorités, sur les transformations de l'industrie des think tanks à l'échelle globale. Pascal Boniface en a dit un mot. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est un métier qui a été inventé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, avec une avance, donc toute une histoire. On va fêter le 100e anniversaire du Council on Foreign Relations, par exemple. Donc cette histoire est extrêmement lourde. Et un investissement extrêmement massif, en particulier de la Chine, qui utilise ces think tanks comme un outil de diplomatie publique de manière très forte. Le projet au bord One Belt, One Road, Route de la Soie, est matraqué, si j'ose dire, par les think tanks chinois. Et donc là, il y a des effets de décalage qui vont avoir un impact sur, là aussi, cette notion de récit. C'est-à-dire que des pays émergents, et en premier lieu la Chine, sont capables désormais de produire leur propre discours, leur propre grille d'analyse des situations internationales. Et donc, il faut être capable d'être dans ce débat-là. Et pour être dans ce débat-là, il faut un minimum de moyens.
Alors, la route de la soie, c'est aussi une manière pour les Chinois de trouver des portes de sortie pour une industrie qui fonctionne à plein et qu'ils ne veulent pas ralentir. C'est l'occasion de dire quelques mots sur le plan économique du poids de la France, désormais troisième force industrielle de l'Union européenne, derrière l'Italie, deuxième agriculture européenne après l'Allemagne, et puis une certaine incapacité à tenir des engagements en matière de réduction des déficits. La France, c'est aujourd'hui, sur le plan économique, un pays affaibli, voire vulnérable, Thomas Gomard.
Ça, c'est évident. Un des points clés du travail que nous avons fait dans le cadre de cet ouvrage collectif Notre intérêt national, c'est de partir de la situation économique de la France en disant que le prochain président, quel qu'il soit, va se heurter au mur de la dette. Et que ça, c'est évidemment une vulnérabilité de la dette publique extrêmement forte en termes de politique étrangère, qu'il y a ensuite une incapacité de la France à tenir ses engagements et à respecter la parole donnée sur un certain nombre de sujets, notamment ses engagements européens. Vous l'avez évoqué sur le glissement de notre industrie, le glissement de notre agriculture. On ne peut pas avoir de politique étrangère ambitieuse si elle n'est pas assise sur une crédibilité économique, et que donc le problème des réformes structurelles à laquelle la France, où les autorités françaises se refusent depuis plusieurs années, va se présenter de manière de plus en plus aiguë, plus on attend. Mais il y a une attente très forte de nos partenaires, parce qu'on ne peut pas aller à l'étranger sans que ce point-là soit mentionné au-delà de la situation politique que nous connaissons. Donc il y a une sorte d'urgence. Je rappelle d'ailleurs qu'en 1958, avant de se lancer dans sa grande politique, ce que fait le général de Gaulle, c'est précisément d'assainir les finances publiques. Deuxième point, en contraste, c'est qu'on a aussi des atouts extraordinaires. On a des grandes entreprises globales, nous avons un système de formation d'ingénieurs, etc., qui malheureusement partent trop à l'étranger, alors qu'il y aurait probablement des tas de choses, c'est pas forcément négatif qu'ils partent à l'étranger, mais je veux dire, il faut aussi être conscient de nos atouts, et je pense que parmi ces atouts, il y a une capacité technologique à préserver, qui passe notamment par le numérique, et là-dessus, il y a des raisons d'être optimiste.
Pascal Boniface.
Oui, il est clair que s'il y avait un déclin économique de la France, elle n'aura plus la voie stratégique qu'elle a. Il faut quand même avoir une économie solide, et pour l'instant, il y a une sorte de surplace pendant que les autres avancent. Donc il est vraiment nécessaire, ça sera la tâche du prochain président, de repartir. Et l'exemple que Thomas Gomard citait de 58, de Gaulle a dit en même temps l'intendance suivra, mais il n'a pas fait cela, puisqu'il a d'abord remis en ordre l'économie française, le plan Rueff, etc., avant de se lancer dans une autonomie stratégique qui n'aurait pas été possible si le pays était économique. Affaibli.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pascal Boniface et Thomas Gomard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère de la France. Nous retrouvons nos invités. Thomas Gomard, historien des relations internationales, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et co-directeur avec Thierry de Montbrial de Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France, paru aux éditions Odile Jacob, et Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Je t'aimais bien, tu sais, Le monde et la France, le Des amours, point d'interrogation, paru aux éditions Max Milo. Thomas Gomard, vous évoquiez dans la première partie de l'émission les attentes très fortes de nos partenaires. Comment nos voisins voient-ils la situation française que nous évoquions dans la première partie de l'émission? Inquiétude
Pour filer le sous-titre de l'ouvrage de Pascal Boniface, je serais tenté de dire qu'ils ont des peines de cœur. C'est-à-dire qu'ils sont très maris de la situation en France. Alors, on ne va peut-être pas faire un inventaire, mais c'est très frappant dès qu'on parle, évidemment, avec nos partenaires allemands. Il y a une très forte inquiétude sur l'élection présidentielle française, c'est-à-dire qu'une la perspective d'une possible élection de Marine Le Pen change complètement la donne en Allemagne, puisque ce serait, au fond, l'idée même du projet européen qui serait remise en cause. Et puis, selon les pays dans lesquels on va, il y a une attente, on a évoqué les aspects économiques de réformes structurelles, mais il y a une attente aussi de prise de position de la part de la France, peut-être un retour à des positions plus équilibrées, à des positions où la France ferait l'effort de parler à tout le monde et de retrouver donc un rôle de facilitateur, pour reprendre une formule que vous avez utilisée, très conforme à sa tradition diplomatique. Donc le désamour, je pense que c'est un mot qui caractérise assez bien les choses, aux nouvelles autorités françaises, aux différents canaux, aussi aux différents acteurs de la politique étrangère française, de faire en sorte que ce désamour cesse.
Pascal Boniface.
Oui, il y a une inquiétude chez nos partenaires européens, mais aussi au-delà d'ailleurs, sur l'éventuelle arrivée de Marine Le Pen. Beaucoup de gens disent le Brexit a eu lieu, Trump a été élu, donc il y a une vague populiste, et ça a été une surprise en Grande-Bretagne, ça a été une surprise aux États-Unis. Eh bien, on va aussi avoir une surprise en France. Il faut dire quand même qu'en France, c'est un système électoral à deux tours, et donc c'est tout à fait différent du Royaume-Uni et des États-Unis, et que, du coup, la perspective de voir Marine Le Pen élue comme président de la République est moins forte, dans la mesure où ses réserves de voix pour un second tour sont moins fortes. Mais cette perspective, ou le fait que ça soit le parti numéro un en France, inquiète énormément non seulement nos partenaires européens, mais au-delà, parce que ce n'est pas la France à leurs yeux. Et effectivement, il y a, et je rejoins Thomas Gomard sur ce point, une sorte, disons que la ligne traditionnelle gaullo-mitterrandiste française n'a pas disparu, mais elle s'effaçait progressivement au fur et à mesure des années, depuis déjà une douzaine d'années, et il y a effectivement une attente de la France de faire un peu plus dans ce domaine, d'être plus active. Elle n'est pas totalement inactive. On a eu des belles réussites, comme notamment la conférence sur la COP21 du Bourget, qui a été une réussite qui n'est pas seulement attribuable à la France, mais dans laquelle la France a pris sa part en tous les cas. Mais très souvent, disons que la France un peu est moins flamboyante qu'elle n'était auparavant. Et ça, effectivement, notamment chez les grands émergents, Afrique du Sud, Brésil, il y a une sorte d'attente qui est un petit peu déçue par rapport à ce que l'on attend de nous.
La France moins flamboyante, est-ce que on peut se poser finalement la question de savoir si la France a une stratégie de politique étrangère, Thomas Gomard, aujourd'hui?
Ça, c'est une très bonne question. Moi, je serais tenté de dire que, au cours des 10 dernières années, il y a eu une stratégie qui était de maximisation de la rente diplomatique par le siège permanent au Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, les capacités de projection et le projet européen. Et en même temps, le double mandat de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande se sont caractérisés par des chocs très violents. La crise financière de 2008 et les attaques terroristes en ce qui concerne François Hollande. Donc c'est une stratégie qui en réalité s'est transformée en mouvement tactique par les chocs produits par l'environnement extérieur, ce qui souligne la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation où la France est dans un système de plus en plus interdépendant, à la fois objet et sujet de cette interdépendance. Et que, à mes yeux, une des ellipses vraiment visibles de la campagne actuelle, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie de cette interdépendance. C'est-à-dire que nous avons des candidats qui font comme si, au fond, on pouvait avoir une politique étrangère comme du temps du général de Gaulle ou de François Mitterrand. Or, la situation a complètement changé. Je pense que le clivage, il est davantage là. Il y a ce débat entre la tradition gaullo-mitterrandienne versus ce qu'on peut appeler peut-être improprement le néoconservatisme. Ou alors il est plutôt entre ceux qui considèrent que mécaniquement la France voit ses positions reniées parce qu'elle a diminué économiquement, mais qu'elle est dans un système interdépendant. Faut-il aller vers plus d'interdépendance ou croire que c'est un isolat et qu'on pourrait se soustraire au monde? C'est davantage comme ça que je poserai le problème.
Est-ce qu'on peut dire finalement, Pascal Boniface, que nous avons, nous, Français, des relations complexes avec la mondialisation?
Une partie de l'opinion française, oui. Et d'ailleurs, la France est un pays des plus pessimistes au monde, plus que les Irakiens ou les Afghans, ce qui peut quand même paraître paradoxal. Mais pour reprendre ce qu'a dit Thomas Gomard, je pense que ces deux lignes se conjuguent, en fait, se superposent. Parce que, bien sûr, la matrice gaullo-mitterrandienne ne peut pas être réduite à la période de la guerre froide. Il y a quand même une vision du monde et une action de la France qui est différente. Et là, les deux derniers présidents, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande, pour des raisons différentes, n'ont pas beaucoup développé cela. Nicolas Sarkozy revendiquait une France appartenant au monde occidental, même si dans sa politique, en fait, il ne s'est pas résumé à cela et qu'il n'a pas eu une rupture totale avec la politique précédente, comme il avait annoncé en 2007. Mais en tous les cas, sa matrice était revendiquée, était celle-là. Quant à François Hollande, lui, c'est plutôt le sens de la synthèse, le pragmatisme. Et en fait, ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'ont développé une vision globale. Nicolas Sarkozy agit comme un avocat. Il a pris les dossiers après dossier avec l'énergie qu'on lui connaît. Effectivement, la crise géorgienne, la crise financière, etc. Des fois de façon plus malheureuse, la Libye, etc. Mais en tous les cas, sans forcément faire un lien entre différents dossiers qu'il aurait mis dans une vision globale. Et François Hollande s'est toujours méfié des concepts. Il a toujours pensé qu'il s'en sortait un peu comme premier secrétaire en faisant la synthèse au PS entre les différents courants et que finalement, tous ses discours devant les ambassadeurs, qui normalement est le grand rendez-vous pour un président de dire un peu quelle est sa vision non seulement du monde mais de la France dans le monde, eh bien tous ses discours jusqu'au dernier, ça a été une suite de dossiers mis les uns après les autres avec quelques réussites, le Mali, la COP21. Mais en même temps, je pense qu'à l'extérieur, on parlait du monde du débat d'idées, à l'extérieur, on attend autre chose et le fait qu'il n'y ait pas un récit français global fait par le président manque un peu pour ceux qui seraient tentés de nous suivre.
Alors moi, ce que j'entends tout de même, c'est que vous décrivez une France plus réactive qu'active hein, en termes de politique étrangère. Vous soulignez le fait que la France était moins flamboyante. J'en reviens aux questions économiques sur deux dossiers. Le premier, c'est les conséquences du Brexit pour Paris. Ce Brexit, il a été présenté par les responsables politiques français comme une opportunité pour la France. Il n'empêche que la France n'est pas particulièrement attractive et qu'elle risque de ne pas bénéficier autant des conséquences du Brexit. Et puis la relation avec l'Allemagne, où l'on voit la nécessité pour la France de se réimposer comme partenaire indispensable. Mais il faut pour cela une remise à niveau économique, Thomas Gomard.
Bon, le Brexit pose des questions économiques, mais pose des questions encore plus politiques, je dirais. C'est que une politique étrangère repose sur trois choses, des intérêts, des valeurs et des alliances. Or, nous sommes dans une situation où il y a quelque chose de très structurant dans la politique étrangère française depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui est cette relation entre Paris, Londres et Washington, qui a évolué avec le temps, mais peut-être de manière méconnue par l'opinion, qui est très structurante en termes de sécurité. Ce qu'on appelle dans le jargon le P3, trois pays également membres permanents du Conseil de sécurité avec une coopération nucléaire, etc. Après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, il n'est pas possible de ne pas s'interroger sur l'avenir précisément de ce P3. Et je pense que le Brexit, en réalité, il y a la dimension économique et il y a le sous-jacent sécuritaire, et en particulier le sous-jacent sécuritaire bilatéral, les accords de Lancaster, qui sont des accords où britanniques et français, signés dans les années 2000, où les deux pays ont noué leur destin en termes nucléaires. Donc la question pour moi vis-à-vis du Brexit, c'est est-ce qu'on va avoir une déconnexion entre une négociation qui s'annonce âpre, dure dans le domaine économique et la continuation de la coopération coopération sécuritaire. Deuxième volet de ce système d'alliance pour la France, c'est évidemment l'Union européenne, qui est structurant depuis le traité de Rome et qui repose en particulier sur une relation très spécifique avec l'Allemagne. C'est ce qui apparaît aujourd'hui de plus robuste. Et ça renvoie effectivement à la demande incessante de nos partenaires allemands de conduire des réformes structurelles pour limiter l'asymétrie franco-allemande dans un cadre de l'Union européenne.
Pascal Boniface.
Oui, tout à fait d'accord avec cela. Et sur l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a un décrochage économique. Le taux de chômage, la balance commerciale et la population également, même si il y a un rattrapage régulier de la France sur cela, sauf avec le mouvement migratoire très fort. Sauf que par rapport à l'Allemagne, nous avons des avantages qu'elle n'a pas. Une force de projection militaire, le siège de membres permanents de la sécurité. Donc nous sommes complémentaires dans nos différences. C'est les bons mariages de raison. Chacun apporte dans la corbeille ce que l'autre n'a pas. Et donc, il y a une valorisation mutuelle, sauf que le fil a été un peu perdu depuis quelques années entre Paris et Berlin, et que la tâche, là, il y a des échéances électorales en mai en France, en septembre en Allemagne, et on a l'habitude d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que le chancelier et le président soient du même bord politique pour que ça marche bien. On peut même dire que, historiquement, ça a mieux marché quand ils étaient de bords différents, sauf que là, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande n'ont pas pu établir une vraie relation de confiance et de travail avec Madame Merkel, comme ce fut le cas dans le passé, Chirac, Schröder, Kohl, Mitterrand, Giscard, Schmitt. Et là, c'est vraiment très important que dans ce mouvement, au moment où il y a des problèmes avec nos partenaires de l'Est, au moment où il y a le Brexit, il est vraiment plus que nécessaire de refonder un couple franco-allemand dont il faut être conscient qu'il n'est pas suffisant pour faire avancer l'Europe, parce que dans une Europe à 27, on n'est pas suffisamment puissant à deux pour le faire. Mais s'il n'y a pas cet accord au départ, un accord qui ne doit pas être exclusif, qui va être un accord ouvert, mais s'il n'y a pas cet accord au départ, eh bien on ne fera pas grand-chose.
L'intervention militaire, est-ce qu'elle est un bon outil de politique étrangère, notamment face au terrorisme? Thomas Gomard, vous évoquiez l'idée tout à l'heure que l'outil militaire avait été trop systématiquement utilisé.
Oui, alors peut-être pour préciser ou nuancer mon propos, je dirais que l'on a, de manière générale, diplomatie et outil militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplomatie sans une capacité militaire pour un pays comme la France. Il y a eu effectivement un recours à l'outil militaire qui s'explique par deux aspects. Il y a d'abord un aspect de dégradation du contexte stratégique dans lequel nous sommes. L'intervention au Mali a montré à quel point le Sahel devenait une zone d'instabilité extrêmement préoccupante. Pour reprendre la formule de Jean-Yves Le Drian dans un petit livre là-dessus, les Européens ne sont plus forcément capables de tenir la guerre à distance, c'est-à-dire qu'il y a aussi avec le terrorisme un environnement qui a profondément changé. Et le deuxième aspect, c'est pour aller dans le sens de votre question, c'est vrai que comme la France dispose de capacités, c'est peut-être des capacité qu'elle utilise précisément pour être très active sur le plan international. Et donc, il y a des questions qui se posent sur la pertinence de l'emploi de cet outil et surtout sur son caractère soutenable. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans une situation où nous avons des forces projetées, nous avons une opération sentinelle sur notre territoire national qui est assurée par les forces armées. Et donc, nous sommes dans une situation où nous demandons beaucoup à nos forces armées qui, elles aussi, ont des moyens budgétaires qui ont été limités. Et ça, à mon sens, c'est dangereux. Dernier point, objet de débat qui n'est pas présent dans la campagne et qui me semble tout à fait central, depuis le Bataclan et le discours de François Hollande, la France se considère en guerre. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un état d'urgence qui va courir jusqu'à juillet 2018. Quel est l'homme politique qui va oser lever cet état d'urgence? Mais ça pose des tas de questions sur l'évolution des libertés publiques, libertés individuelles et surtout le climat dans lequel nous agissons.
Alors ce qu'on constate tout de même, c'est que finalement les questions de politique étrangère, elles sont assez peu présentes dans la campagne. Pascal Boniface, la montée du fait religieux, est-ce qu'elle est un défi pour la politique étrangère et finalement comment pour la France aborder la question de l'islam?
Alors, il y a déjà un problème de la France elle-même et de son rapport avec la minorité musulmane qui, à mon sens, est vue comme étant discriminante par beaucoup, à la fois en interne et en externe. Et c'est vrai que ça sera le défi du prochain président de calmer un peu le jeu là-dessus. Les débats de l'été dernier sur le burkini étaient proprement excessifs. Dire que le débat principal au cours de l'été 2016 était le débat sur quelques jeunes femmes qui portaient un burkini nous a quand même un peu ridiculisé. Et là, il y avait l'unanimité des différents ambassadeurs réunis pour la semaine des ambassadeurs, que quel que soit leur pays dans lequel ils exercent leur fonction, quelle que soit leur conviction personnelle, cette affaire a jeté un peu un discrédit sur l'autre pays parce qu'on a montré un volet d'intolérance. Donc ça, c'est quand même très dommageable, alors que c'est justement la popularité de la France était une image inverse, ouverte. Par rapport à votre question sur l'état de guerre, ce que a dit Thomas Gomard, il y a aussi un vrai débat. Est-ce que le fait de marteler comme on le fait que nous sommes en guerre n'est pas tombé dans le piège qui nous est tendu et donner une importance supérieure à ce qu'il représente réellement des groupes terroristes? Qu'il y ait un défi sécuritaire, c'est une évidence, on ne peut pas être dans le déni, mais en faire une menace existentielle, je pense que Barack Obama a eu une approche beaucoup plus mesurée et finalement saine de la question, parce que à marteler tous les jours que nous sommes en guerre, on crée un climat anxiogène, on n'attire pas trop les investisseurs, on ne peut pas dire que l'on veut être la première destination touristique mondiale et en même temps dire que l'on est en guerre, c'est un peu contradictoire. Et donc je pense que là, il y a une dérive à la fois médiatique et politique. Moi, j'appelle depuis quand même assez longtemps à qu'il y ait une réflexion globale des médias, des responsables, pour comment on traite ce sujet. Est-ce que on ne va pas un peu trop loin d'en faire l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'on le peut craindre par rapport au débat de politique étrangère, alors qu'il y a des défis importants, aussi bien par rapport aux États-Unis, la Russie, la Chine, etc. C'était déjà le cas en 2007 et 2012 également, que les débats sur le monde soient un peu réduits à la portion congrue du terrorisme.
Pour terminer cette émission, finalement, en guise de conclusion, les enjeux post-2017, quels sont, d'après vous, les grands volets qui seraient à repenser dans notre politique étrangère ? Thomas Gomard.
Bon, j'en vois trois. Je vais commencer par là, même si c'est pas forcément la plus importante à mes yeux, mais la question du terrorisme. Il y a un chapitre de Marc Ecker dans l'ouvrage qui explique que c'est un terrorisme de négation. Donc il y a une dimension quand même extrêmement politique dans ce qui est en train de se passer et dans les attaques que nous subissons. Est-ce existentiel ou pas? Je rejoindrai plutôt Pascal Boniface pour essayer de remettre ça en perspective. Deuxième enjeu, l'adaptation de notre modèle politico-économique à la mondialisation et je dirais à la déformation du triangle Chine, États-Unis, Russie. C'est en réalité le cadre dans lequel la mondialisation va s'organiser et ça implique des adaptations tout à fait considérables de notre modèle. Et troisième sujet, les biens communs. C'est-à-dire que la France a eu ce succès sur la COP21. Il y a d'autres sujets sur lesquels il faut inventer des nouveaux modes de gouvernance à plusieurs. Je pense en particulier, évidemment, à la lutte contre le changement climatique, la continuation COP22, les questions aussi environnementales au sens large, la bioéthique. Autant de sujets sur lesquels, à mon avis, il faut beaucoup plus travailler et essayer de construire une position sur la durée.
Pascal Boniface.
La France est d'autant plus puissante qu'elle représente d'autres intérêts que les siens. Et effectivement, qu'elle rayonne. Et la COP21 dont Thomas Gomard vient de parler a été extrêmement vertueux pour nous parce que c'est l'intérêt général, à n'en pas douter. Et en même temps, c'est notre intérêt. Donc la France, comme porteuse d'un projet universel, s'est mise en avant et en a bénéficié. Et je pense qu'il faudrait adapter ou renouveler cela pour ce qui est des questions de sécurité collective qui sont complètement en panne du fait des divisions que l'on a eues sur les interventions militaires extérieures. Il y a un passif. Kosovo, Irak, Libye, etc. On voit bien qu'il y a un très grand blocage en Syrie, qu'il y a un très bon blocage sur ça. Et peut-être que la France pourrait prendre une initiative pour faire une grande conférence sur la sécurité collective où les choses seraient mises à plat, comme elle a su le faire pour le climat.
Alors, on a encore un tout petit peu de temps. On évoquait la relation complexe des Français avec la mondialisation. Est-ce qu'une France plus ouverte vous semblerait l'un des défis aussi à relever pour les années qui viennent, Thomas Gomard ?
Je pense qu'il faut distinguer ce qui relève des élites politiques qui bien souvent méconnaissent le monde, c'est-à-dire que leur mode de sélection est un mode de sélection qui ne passe pas par la connaissance du monde extérieur, d'une société probablement beaucoup plus mature et beaucoup plus ouverte qu'on le dit sur les questions internationales. Vous avez 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, qui sont en rapport très très régulier. Vous avez maintenant tous les étudiants qui font une partie de leur scolarité à l'étranger. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des chercheurs, des artistes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a à mon avis une connexion très forte entre l'image projetée par nos élites politiques et la réalité de la société civile qui est branchée sur le monde.
J'abonde dans ce sens, un seul chiffre, l'an dernier, 25% des mariages ont été des mariages entre Français et étrangers. Donc un quart des mariages ont été des mariages qui ne sont pas dans... Donc ça prouve, malgré des discours de haine, ça prouve quand même une société qui est très ouverte et beaucoup plus apaisée en réalité que certains le pensent.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier « Je t'aimais bien, tu sais, le monde et la France, le désamour » point d'interrogation paré aux éditions Max Milo, et Thomas Gomard, historien des relations internationales, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et co-directeur avec Thierry de Montbrial de « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France » paru aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique vous sera présenté par Caroline Paré. À très bientôt.